Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
Samedi 1er et dimanche 2 mars, un week-end hip hop sur les 3-8.
Stop. Plus d'infos sur le www.radiogrenouille.com.
Vous êtes bien sur les 3-8 pour le week-end Hip Hop État des Lieux. On vous propose d'écouter tout de suite un entretien avec Solo, membre fondateur d'Assassin, danseur de Paris City Breakers. Une interview détendue enregistrée à la Renaissance de La Franchie, la salle emblématique du hip-hop à Marseille.
On est ensemble en direct de La Franchie avec Solo. On voulait profiter de ta présence ici. Tu accompagnes Monsieur Rocket sur la diffusion du film Smells Like Hip Hop. Solo, ex-membre d'Assassin, ex-membre fondateur d'Assassin. Alors, on est plusieurs à se souvenir de ces fameuses images dans l'émission de Sydney à l'époque, HIP, HOP, où tu as fait partie parmi les premiers jeunes CFRANs à te lancer vraiment dans ce mouvement-là, via la danse notamment. Je voulais savoir, toi, avant ça, d'où est-ce que tu venais et comment est-ce que tu as percuté avec ce mouvement, le hip-hop, Solo, vraiment à l'origine pour toi, comment est-ce que ça s'est passé? D'où est-ce que ça vient?
Ça vient d'un flash que j'ai eu un jour en allumant ma télé, un samedi après-midi. Je suis tombé sur l'émission Megahertz d'Alain Manval, sur le New York City Rap Tour. Et voilà, c'était une émission sur le hip-hop. En tout cas, qui voulait présenter tout ce qui était représenter le hip-hop réellement à l'époque. Que ce soit la danse, le graffiti, le rapping... Voilà, tout ça.
On est en quelle année, là, à peu près ?
On est en 1982. Voilà.
Comment ça se passe ? Le lendemain
Non, pas le lendemain.
Ouais. Le jour même.
Instantanément. Non, ça, mais vraiment, instantanément, quoi. Je suis devant la télé, je vois ces mecs, tu vois, qui dansent les Rocksteady Crew, tout ça. Et moi, qui étais dans la danse un peu funk, on va dire post-fame... la série qui passait à la télé et non pas le film, je vois ça, je fais attends, il faut que j'essaye tout de suite là. Je pousse la table de salon, la table basse, et je fais de la place pour essayer de comprendre les footwork, tourner sur la tête et ainsi de suite, et voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours la danse qui constitue l'essentiel de ton investissement dans ce mouvement-là, dans cette culture-là, dans ta vie?
Non, soyons honnêtes, c'est... Ça y est, maintenant on va dire que je suis passé au stade éminence grise. Voilà. On va dire que je suis activiste, mais plutôt dans l'intelligence, pour faire un peu. Non.
Place aux jeunes.
Voilà, exactement.
Mais si on continue sur la danse, pourquoi finalement on se défie dans la danse? Pourquoi ce jeu de défi comme ça de...
Alors, je serais bien embêté de te répondre comme ça, mais moi, ce que j'y vois, c'est plutôt... c'est pas... Alors, de ce que j'en sais, au départ, c'était une manière pour les gangs d'éviter d'avoir à en venir aux mains. Et que donc, il y ait des morts et ainsi de suite. Quand on avait un différend à régler, on allait essayer de le régler de manière positive au travers de la danse. Voilà. D'où vient ce...
Mais Africa Bambaataa, justement, c'était dans cette optique-là qu'il avait créé la Zulu Nation. Est-ce que toi, à l'époque, tu t'es senti proche de ce mouvement-là ou pas du tout?
Oui, je m'y suis senti proche plutôt pour les valeurs festives qu'il mettait en avant et que pour un cancre comme moi, c'était beaucoup plus simple de dire « Ouais, on va faire la teuf plutôt qu'il faut travailler pour arriver là ». Pour arriver à s'élever socialement et ainsi de suite. Moi, je voyais beaucoup plus de trucs. Ah ouais, peace, unity, love and having fun. Peace, j'étais pas vraiment en guerre avec qui que ce soit de mon entourage. Unity, ah bah ouais, plus on est de fous et plus on fait la fête. Love et having fun, bah écoute, s'il y a moyen de faire le guéluron Et pour parler vulgairement de pécho de la meuf et de... Ah ben ouais, moi je suis d'accord. C'est plutôt ça, quoi. Voilà, c'était ça, je dirais.
Il y a eu une évolution depuis, quand même, dans ta manière de percevoir le truc, de t'y inscrire aussi, de le réfléchir un peu aussi, parce que t'es quand même quelqu'un que t'as du recul par rapport à tout ce mouvement-là.
Bon, alors soyons honnêtes, hein, le temps fait bien les choses. Je vais dire, j'ai écrit une rime que j'ai pas encore balancée et que, dont je vais vous donner l'exclusivité. C'est que j'ai d'abord été jeune et con avant de savoir faire front avec un minimum de consistance et de fond. Donc, ça n'enlève rien au fait que des conneries, c'est même pas j'en ai fait, c'est la taille au-dessus, mais juste que, bon, à un moment, tu peux pas... Ou sinon, tu vas en crever de tes conneries. Quand je dis en crever de bêtises ou en crever au sens concret du terme. Voilà. Point barre.
Mais le hip-hop, justement, à l'époque, c'était plus cet état d'esprit et c'était jeune. Et maintenant, il y a une diversité d'état d'esprit, comme on en parlait justement dans le débat. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour le mouvement d'être à la fois dans la jeunesse et dans la maturité au niveau des textes et des états d'esprit, justement?
Écoute, la maturité, la jeunesse, évidemment, puisqu'on va dire que c'est comme les montées de testostérone, c'est ce qui permet de se dépasser ou en tout cas d'affronter certaines choses qui, en tout cas, peuvent être caractérisées par la peur. Le côté testostérone du truc, de la jeunesse, c'est genre « Ouah, on y va !» Bon, super cool. Et après, on a quand même besoin, je pense, de se poser un minimum. Les choses doivent être construites, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on avance et on ne peut pas avancer juste dans un truc bordello. Moi, je pense que c'est quelque chose qui réellement vient avec l'âge, point barre, tu vois, c'est pas...
Quand Stéphane parlait de nécessité tout à l'heure dans le débat, tu étais un peu, on va dire, pas vraiment d'accord, mais tu avais une nuance par rapport à ça. Est-ce que, pour toi, un jeune qui aujourd'hui rappe ou danse, mais n'a pas cette conscience de Peace, Unity, Love and Having Fun, par exemple, il reste hip-hop s'il n'a pas le knowledge derrière?
Oui, il peut très bien l'être. Maintenant, tout va dépendre réellement de ce qui est dégagé. Est-ce que c'est un aspect bienveillant ou est-ce que c'est juste un aspect égocentrique ou c'est ça qui va faire la différence, en tout cas à mes yeux. Après, ça ne vaut que pour moi.
Julien Valnet, dans son livre, parle de hip-hop comme art du combat. Est-ce que pour toi, c'est valable et est-ce que ça l'est toujours? Est-ce qu'on peut parler de hip-hop comme art du combat encore aujourd'hui?
Écoute, le hip-hop, pour moi, la manière dont il a été créé, il participe d'un certain mouvement d'émancipation et d'ouverture d'esprit d'une certaine tranche sociale. Il peut être vu comme tel, mais il ne peut pas représenter que ça. Ça ne peut pas être la seule représentation qu'on peut en donner.
Alors, ce serait quoi d'autre, du coup, en plus ou...
Mais ni plus ni moins, il y a un aspect, je dirais, spirituel à l'insu du plein gré de celui qui le pratique, qui est de l'ordre de l'ouverture d'esprit et de un positionnement aussi dans le tout qui est, je dirais, l'univers en général, et de s'y inscrire de manière la plus positive qui soit en utilisant tous les moyens qu'on a sous la main. Donc le mélange et ainsi de suite.
Il y a un truc... C'est vrai que le rap, parmi les expressions de ce qu'on appelle la culture hip-hop, et peut-être ce qui se voit le plus, ce qui s'entend le plus aussi,
oui.
Il me semble que peut-être...
Est-ce que c'est celui qui génère le plus d'argent?
Aussi.
Bah oui, c'est pas aussi, c'est surtout.
Surtout, ouais. Mmh. Pourtant, il semble que des disciplines... Alors, je vais même pas parler du graffiti, qui aujourd'hui est sous le nom de street art, qui s'est un peu élargi... Et un petit peu rentré dans c'est un lieu commun de la culture presque aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Mais la danse, il y a quelque chose de très particulier, je trouve, avec la danse qui en même temps a réussi dans certains cercles à rentrer un petit peu dans le cénacle culturel, notamment en s'acoquinant souvent avec la danse contemporaine ou d'autres.
C'est donc, il ne faut pas se tromper, c'est ces autres formes d'art qui ont essayé de s'accaparer le hip-hop. Le hip-hop de lui-même dans la danse, il n'est pas allé sciemment vers ces trucs-là.
D'accord.
Moi, c'est ce que c'est ma vision, en tout cas. Mais c'est ces autres formes, je dirais, culturelles, qui se sont rendues compte de la potentialité et surtout de l'ouverture que ça pouvait amener à leur propre création, qui ont essayé, tant bien qu'ils ont pu, d'intégrer le hip-hop à leur truc.
Moi, j'ai l'impression
et non pas l'inverse.
La danse dans le hip-hop, c'est plus que la danse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'attitudes corporelles, de manières aussi d'affirmer, enfin, d'être dans son corps, dans l'espace, qui
clairement
dépasse l'espace de la danse,
clairement,
et qui s'est vraiment aussi généralisé aujourd'hui, quoi.
Mais clairement, parce que ça a banni les codes. Ça a banni les codes. Dans la danse, il y a des codes. On t'apprend les pas, on t'apprend à faire la première, la deuxième, la troisième position, la tierce, la quinte. Voilà. Tu apprends ce genre de choses-là comme tu apprends à l'escrime. Dans le hip-hop, un mouvement est un mouvement. Il peut être un mouvement de base, mais de toutes les manières, ce qu'on va attendre de toi, c'est que tu le modifies. Et pas juste que tu le répètes. Donc, voilà. Et c'est ça qui fait que le hip-hop reste en perpétuel mouvement.
Les scènes de la danse aujourd'hui, ça reste encore des halls de gare, ça reste encore la rue d'une certaine manière. Mmh. Et ça, c'est quand même pas rien. Ça l'est sans doute moins pour d'autres, disons, disciplines du rap, du hip-hop, par exemple. La danse a gardé cette scène première comme étant les halls de gare, à même la rue, quoi.
Ben moi, je vois plutôt ça parce que, justement, pendant très longtemps, la danse a été traitée comme le parent pauvre et que comme c'était pas l'élément qui générait que ce soit le plus d'attention ou le plus d'argent, bon, ben, on le laisse se démerder tout seul. Et se démerder tout seul, c'est rester dans ce qu'était le hip-hop au départ, la débrouille. Et la débrouille, c'est tu danses là où tu peux et comme tu peux et ainsi de suite. Je veux dire que dès que certaines compagnies ou certains danseurs ont été intégrés à des compagnies dites contemporaines et ainsi de suite, c'est fini, hein, le « je danse sur le marbre » ou « je vais chercher du carton » ou mon lino. Voilà, tu profites d'une salle, dès que tu as accès à un certain confort, t'en profites, point barre.
Toujours avec Solo sur le plateau de Radio Grenouille. Solo, est-ce que tu voudrais nous raconter un souvenir de Marseille pour toi qui est venu la première fois, tu disais, en 93 avec
ouais.
Assassin ?
Oui.
Et qui a eu l'occasion de revenir ensuite plusieurs fois. En tout cas, je crois que c'est une ville importante pour toi. Peut-être un souvenir lié à la ville de Marseille et à sa scène.
Bah alors, il y a tout genre de souvenirs. Il y a des souvenirs super cool, des marrants, qui en tout cas, moi, me faisaient rire, mais m'ont fait rire sur le moment, mais qui n'étaient pas très marrants. Notamment, sans rentrer dans les détails, je me rappelle d'un petit truc qui s'était passé avec Jell quand on était venu la première fois. Alors, par respect pour lui, et puis le temps ayant fait son œuvre, je ne vais pas rentrer dans le détail du truc, mais qui s'était passé avec Saïd Tagmaoui, notre acteur national. Voilà. Sinon... Ben ici, moi pour moi, c'est très marqué par la franchise ici et par le studio de la franchise, par ma collaboration avec Jacko Jack, qui est quand même une des périodes qui a été les périodes les plus prolifiques de ma vie. J'ai fait des beats à Marseille qui ont marqué vraiment, je pense, en tout cas ma création à moi. Par exemple, le beat pour Polo ou le morceau Pop 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 de NTM, c'est des morceaux que j'ai fait ici. Et je dirais que ma rencontre, par exemple, avec Jack, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que tout d'un coup, j'ai eu un interlocuteur qui m'a permis réellement de pouvoir concrétiser beaucoup d'idées que je pouvais avoir en tête. Et comme j'avais 200 idées, je vais pas dire à la minute... Mais d'avoir un mec, un instrumentiste et un producteur de cette qualité me permettait, moi, d'aboutir des productions. Ça, c'est carrément super bien. Je me rappelle aussi un barbecue à la plage qu'on avait fait, où je ne sais plus comment on s'était retrouvé là, avec Joey et ainsi de suite. Et qu'il y a des mecs qui passaient par là, qui ont reconnu Joey, ainsi de suite. Et c'est parti en sur-méga live. Genre, voilà. Ou tiens, le jour où on est allé au Vélodrome avec Joey. En fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que nous, dans notre état d'esprit, c'est même plus de la provocation, mais c'est que, voilà, tout passe, quoi. Tu vois ?
Vous pensez pas que c'était...
Mais alors, non. Mais c'est freestyle,
vous
frère.
Vous pensiez pas.
Mais non. Mais non. Bah, nous, on vient, on est là. Attends, écoute, y a pas écrit « Je représente Paris et c'est que Paris » ou en tout cas, on se rend pas compte que les gens sont aussi fanatiques que ça ici, quoi.
Et là, tu t'en es rendu compte, à ce moment-là ?
Ah, mais frère, tu vas au Vélodrome et tu vas dans le virage, d'accord ? Et tout d'un coup, tu te retournes et tu vois les mecs qui courent carrément, tu vois, sur à la grille et qui sont là « Oh, Joey, enculé !» Tu vois, des trucs comme ça. Et ça commence à cracher au travers, tu vois, des grilles et tout. T'es là « Bon, ok, d'accord. » Et j'étais, ce jour-là, on était avec Lionel Fornini, Olivier Poli, tu vois. Et on se retrouve, tu vois, dans ce truc-là. Bon, au bout d'un moment, c'est genre « Bon, je crois qu'il va falloir qu'on bouge quand même. » Tu vois. Et comme moi, j'étais à Marseille depuis un certain laps de temps, et que, pareil, tu vois, dans une espèce de folie provocatrice, mais en même temps sans vouloir être provocateur, moi je me baladais dans Marseille avec mon sweatshirt PSG, frère.
C'était en quelle année ?
94, 95.
Ouais.
Ouais, mais bon, en même temps, si t'as vraiment un problème avec moi, viens me le dire, quoi. Et juste, je te dirais, mec, j'en ai rien à foutre, c'est que du foot. Voilà, j'aime bien cette équipe, t'aimes bien ton équipe. Ben voilà, allez, vas-y, vogue. Tu vois, mais tu vois, c'est des espèces de trucs comme ça où tu dis non mais attends, t'as vraiment la lumière à tous les étages, mec. Ça c'est au jour d'aujourd'hui, ça passerait pour de la provocation, quoi, carrément. Voilà, alors que ça n'était pas le cas.
Danseur, beatmaker, rappeur à tes heures aussi. Aujourd'hui, ça c'est un éclectisme, une versatilité qu'on voit moins, j'ai l'impression. Peut-être aussi parce que les disciplines ont évolué, c'est devenu de plus en plus un truc de spécialiste, non ? T'as pas cette sensation-là chez les plus jeunes qui a moins cette manière un peu globale d'aborder la culture hip-hop ? Allez.
Écoute, quand j'étais jeune, je faisais qu'un seul truc. Hein. C'est avec le temps que tu te rends compte que d'une certaine manière, tu es obligé d'avoir une certaine forme de versatilité. À moins que tout d'un coup, tu sois prêt à aller travailler, faire le manutentionnaire ou aller pousser des caddies, tu vois, au supermarché du coin. Comme c'était pas mon cas, bah, au bout d'un moment, tu es obligé de te renouveler, quoi. Quand tu danses et que tu te dis, peut-être à un peu plus de 25 ans, ouais, peut-être que là, tu vois, je commence à avoir mal là. Quand je danse, il faut que je m'échauffe. Bon, je vais peut-être faire autre chose, je vais faire de la musique. Tac, t'apprends à faire des beats. Tu mets un certain temps à apprendre à faire des beats. Et puis, une fois que tu sais faire des beats, tu te dis, ouais, mais... s'il y a personne pour rapper dessus, alors je vais rapper, je vais essayer de rapper, en même temps que je vais continuer à me perfectionner à faire des beats. Tu vois, c'est pas vraiment quelque chose qui est... C'est pas pensé ou... Voilà.
Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu voulais vivre et manger hip-hop ?
Mais c'est une question, ça ? Frère !
Parce que
mais,
tu
non, disais... mais attends, du moment où, tu sais, où je... Quand j'ai... comment on appelle ça pousser la table du salon pour... c'est un virus. On m'a pas dit. Moi, si on m'avait dit, tu vois, c'est comme la drogue. T'essayes une fois, après, t'en reveux. Bon, ben là, c'est... tu prends ton premier fixe de danse, de... Ah, vas-y, je me mets sur la tête, je fais des trucs de ouf. Le soir même, tu vas dans une soirée, tu fais... Putain, ouais, j'ai vu des mecs qui faisaient des trucs comme ça. Tu commences à te jeter par terre, tu fais des trucs, tout le monde te regarde. Tu vois que ça intéresse tout le monde. Mec, tu veux plus lâcher. Tu vois, et le virus, il est en toi. Et le virus, après, une fois qu'il est là, moi, je me suis pas posé la question de savoir est-ce que je voulais vivre ou... je savais qu'il y avait un truc qui me permettait de faire tout ce que je pouvais pas faire ailleurs. C'est-à-dire, quand t'es à l'école, on te dit « il faut que tu apprennes ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que... » Et tout d'un coup, tu tombes sur un truc où c'est « vas-y, mec, fais ce que tu veux, tout est permis. » Ah, mec, je me pose pas la question deux fois. Hein.
Et pourtant, le hip-hop a ses codes.
Oui, mais ces codes-là, tu vois, c'est sur un truc qui est tellement ouvert que tu ne vois pas ça comme une contrainte. Bien au contraire. Et en plus, ces mêmes codes, je les sens plus ouverts vers quelque chose de bienveillant que vers une quelconque contrainte, quoi, de « Ouais, faut être comme ceci, faut être comme cela. » Le faux, c'est l'exemple que te donnent les autres. Tu vois, de voir que le mec, il a mis son chapeau comme ça et que ça fait mortel et tatati tatata... voilà, ou que t'arrives dans la boîte, pour moi, c'est je vais au Bataclan à Paris, j'arrive, et je vois que tout le monde me mate et que les gens me suivent dans la boîte pour voir si je vais danser ou pas. Putain, mais mec, quand t'as goûté à ce genre de truc là, tu vois, tu vas parler à une fille, tu l'aurais regardé, tu dis que mais jusqu'à présent elle m'a jamais vu ou quoi. Et tout d'un coup, t'es là et c'est toi quoi. Bon ben c'est ce genre de choses là, tu te rends vite compte que c'est un métier qui défonce quoi.
Et c'était quoi le déclic en fait de toute cette, on va dire, cette célébrité?
Ben au début c'est juste, je veux savoir danser comme ces mecs là. Je me rends compte que c'est pas si mal. Puis finalement, il y a des gens qui me disent que je suis bon. Puis finalement, à force d'être bon, mais si je suis carrément très bon. Et puis tu te retrouves à la télé parce que t'es bon. Et une fois que t'es à la télé, ça y est, t'es dépassé par le truc, quoi.
Je voulais poser une petite question par rapport au beatmaking. C'était quoi tes premières machines? Après là, c'est un truc de spécialiste, mais bon.
La toute première machine, TR-808. TR-808.
La base.
La toute première. TR-808. La première que j'ai achetée. Et je l'ai achetée à Marco Prince de FFF. Et je l'ai toujours d'ailleurs, cette TR-808.
Tu l'utilises toujours?
Là, c'est pas moi qui l'utilise, c'est mon ami Loïc Durie. Parce que j'ai démonté mon studio quand même depuis pas mal d'années. Et voilà, j'ai stocké mon matériel dans son studio et lui l'utilise. Ouais.
Et tu composes toujours?
Non, là, ça fait des années que j'ai pas composé, mais je suis toujours dans ce process dans ma tête, quoi. Et je suis quand même réellement l'évolution de la technologie au niveau des machines et ainsi de suite. Et ça veut dire que je pense, et d'ailleurs, je vais essayer pour vérifier si c'est... mais que si, en 3 mois, je peux être assez opérationnel. Et puis bon, maintenant, j'approche, j'aurais pas la même approche qu'à l'époque. Ça veut dire que j'essayerai pas de faire les beats de A à Z. Je pense que j'irai piocher dans l'entourage réellement que j'ai, où j'ai différents instrumentistes, des beatmakers. Enfin, je bosserai plus à l'américaine où je compartimenterai le truc. Chaque truc est spécialisé. Un beat, je ferai l'ossature du beat de base. Je demanderai à tel clavier de venir me jouer tel genre de basse. Après, je sais que j'aurai quelqu'un qui est très très fort dans l'arrangement de cordes. J'enregistrerai l'air que je vois à ma voix et je demanderai au mec de venir plaquer les trucs comme il faut. Et je referai passer un programmeur pour rajouter vraiment les effets qu'il faut sur le beat et ainsi de suite.
Donc du coup, à défaut d'être un maître de cérémonie, tu serais un maître d'orchestre, quoi.
Ben, c'est un peu ce que j'ai toujours fait, pour être très honnête avec toi. Moi, je sais jouer d'aucun instrument et ainsi de suite. Et quand j'écoute certains beats que j'ai faits, il y a des trucs que j'ai fait total à l'oreille. Genre, je prends tout comme ça, voilà, et ça le fait. Mais aujourd'hui, maintenant, avec la qualité des machines qu'il y a, aussi la qualité des producteurs, et là où il faut des deux, mais je pense qu'on n'est jamais mieux équipé que dans l'équipe, quoi.
Entouré.
Ouais.
Tu te vois faire quoi dans 25 ans?
Eh, frère! Dans 25 ans, j'espère bien que je serai dans un bon fauteuil, là. Comment? Toi aussi? Toi, tu es sérieux? Dans 25 ans, je vais faire quoi? Hein? Je parlerai avec mes petits-enfants, j'espère. Et je serai là, tu vois. Tu vois les gros dégueulasses, là, dans Riser et ainsi de suite? Ben voilà, même peuterie, genre slip kangourou en train de te gratter les couilles sur le bord de la piscine. Ça, je me vois bien dans le genre ça.
Toujours hip-hop?
Mais ça, c'est jusqu'à la mort, frère. B-boy for life. Vraiment. Je resterai toujours un b-boy. Et d'ailleurs, je suis à l'affût de voir comment est-ce qu'on va vieillir hip-hop. Tu vois? Parce que, par exemple, les gens des années 50 ou 40, tu vois, ils organisent des balles pour vieux, tu vois, où ils vont l'après-midi. Mais les vieux hip-hop, ça va être comment, quoi? Moi, je suis curieux de voir comment ça va péra et tout, genre « Ouais, je suis sur le bide, je te dépousse dans le truc, tu vois pire, et mamie, viens !» Je suis curieux de voir, tu vois.
Je pense qu'il y aurait des tournées un peu comme ceux des années 60 qui font des tournées en ce moment.
Frère.
Ça se fait déjà, non?
Oui, mais, mais pas en hip-hop. Ah, ah quoi non. Que, c'est quoi vrai que si que. Des gens comme moi se remettent à tourner, ça peut avoir, tu vois, un peu cet aspect-là. Tu vois, genre Désirless qui revient et... Eh ben, je peux revenir, hein, si vous voulez. Tu vois, bon, je vais pas me faire une coupe chelou. Et... Mais Oui, je suis...
Mais je suis d'accord avec toi, c'est une vraie question. Au-delà de la blague, c'est une vraie question. Pour une culture qui est née à la fin des années 70, et donc les gens qui sont nés avec cette culture aujourd'hui, on va dire les plus anciens des anciens, ils ont la soixantaine, quoi. Mais ouais. Sinon, c'est plutôt la quarantaine. Et donc, c'est des gens qui commencent à se poser un peu des questions, qui ont des enfants, etc. Et donc, nécessairement une évolution. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais avant, qui, je pense, est un garde-fou un peu à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours la jeunesse qui est là, quoi. Donc, à un moment, organiser des thés dansants hip-hop, je ne suis pas sûr que ce soit possible, parce qu'il y a toujours les jeunes qui sont là pour faire vivre le truc aujourd'hui comme ils le vivent, eux, et apporter leur vision du truc. Tu n'es pas d'accord avec ça ?
Si, si, tout à fait. Mais celui qui aura les 40, les 55, 60, 65 ans, il ne va pas vivre le truc sur Danny Brown, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Celui de l'époque qui a connu l'époque Sugar Hill Gang et tout ça, et qu'il a vraiment vécu comme ça, est-ce que tu penses que quand il écoute Danny Brown, il est comme un dingue ? Alors que l'autre, il parle de ils sont à la codéine et tu vois, et putain, bah, à moins, tu vois, de voir des yeuves qui arrivent et qui font le thé dansant à la codéine, alors là, ouais, je veux bien voir ce que ça donne, tu vois. Parce que on voit ce que ça a donné avec DJ Screw. Mec! Alors ça, non mais franchement, c'est vrai, pur concept. Pur concept. Thé dansant à la codéine. Où on vas-y, ils ralentissent tous les disques et tout. Ils font du chop and du screwed and chop.
Mais faut pas qu'ils terminent tous comme DJ Screw.
On est d'accord.
C'est
mais,
ça.
Mais, il y en a qui l'auront peut-être pas fait au moment d'eux, et puis qui tout d'un coup, comme ils ont bien vieilli et tout, ils font bon, ouais, vas-y, viens, on se le screw celui-là et tout. Ça peut donner des sacrés que trucs, quoi.
Mais en même temps, Solo, t'as quel âge, toi ?
Eh, hey, toi aussi. Allez. Hein ? Est-ce qu'on demande des choses comme ça, là ? Ah, vraiment, vraiment, le garçon, là. Oh. Non, 47, on va sur 48. Bon, là,
tu nous parles de Danny Brown. Donc, entre autres choses, j'imagine, tu parlais de beatmaking, de tenir au courant des dernières technologies. Donc, t'es plus un tout jeune homme, disons-le franchement. Ouais, moi clairement. Non plus. Hein, d'accord ? Mais t'es quand même encore connecté à ce qui se passe. Tu vois, et y a plus, je pense pas que dans 15 ans tu vas te dire tiens d'un coup je vais revenir à ce qui se faisait il y a 30 ans et tu vois tu vas rester connecté à ce qui se passe. Ça,
non,
fait,
non,
ça
non.
Fait partie aussi non,
je pense pas, non, je pense pas. Je pense qu'il y a un moment où ne serait-ce que intellectuellement et dans tes capacités, je veux dire c'est physiologique quoi. Il y a un moment tu peux pas continuer à passer ton temps à chercher le dernier truc du dernier truc du. Tu te calmes. C'est comme si tu me disais, ouais, les mecs de Kraftwerk, là, aujourd'hui, qui sont à l'affût du dernier mec techno, tatati, tatat. Oui, oui, il y a de ça. Mais à un moment, ça se calme. T'es obligé de te calmer, mec. Je veux dire, t'es là avec ton déambulateur, les mecs, tu vois.
Vous parlez de tes dansants, mais après tout, c'est l'enfance de l'art, quoi. C'est jeune, le hip-hop.
Non, le gars, là. Et toi, tu es bon. Toi, tu es bon. Effectivement, 40 ans, c'est tout jeune. Mais c'est vrai que dans 20 ans, ça en fera 60. Et à 60, tu gagnes plus comme quand t'en as 20. Donc, ouais, moi je trouve que c'est vrai, c'est jeune. Il y a encore des punks. Hein. Et les punks, ça date pas, tu vois. C'est la même époque. Mais c'est vrai que des punks, il y en a moins que des b-boys. C'est juste ça la différence.
Parce que ça vend moins, tu penses ?
Non, c'est pas une histoire de ça se vend moins. Frère, c'est plus difficile de porter une crête qu'une casquette. Voilà, voilà. Revenons à ce côté, voilà, c'est ça, hip-hop. Tu vois, vaut mieux qu'on en rit que... Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Putain, mais des fois, on s'est trop pris au sérieux, frère. Voilà. Et maintenant, c'est le moment juste de pouvoir se rendre compte que, bon, c'est bien, se prendre au sérieux, ça fait avancer, mais trop au sérieux, ça fait pas avancer le schmilblick. Voilà.
Merci, Solo.
Merci à vous. Hip hop will never die. Never.
Vous venez d'entendre un entretien avec Solo, membre fondateur d'Assassin, danseur de Paris City Breakers, une interview détendue enregistrée à la Renaissance de La Franchie, la salle emblématique du hip hop à Marseille. À écouter ou réécouter sur le www.radiogrenouille.com.
Marseille Hip-Hop 2014, état des lieux.
Samedi 1er et dimanche 2 mars,
un week-end hip-hop sur les 3-8.
Plus d'infos sur le www.radiogrenouille.com.